Les instruments voyageurs, le podcast. Quelle relation les femmes entretiennent-elles avec la musique ? Pour répondre à cette question, nous allons voyager à travers les époques, les pays et les styles. Ce projet d'émission est venu d'un constat largement documenté. Aujourd'hui encore, la représentation masculine est majoritaire dans la musique. Lorsque nous nous sommes intéressés aux divers instruments joués par les Villeurbannais et les Villeurbannaises, lorsque nous sommes allés à la rencontre de ces interprètes, la parole des femmes a été plus difficile à faire émerger. Aussi, nous voulons à présent les mettre en lumière et faire entendre la multiplicité des rapports que les femmes entretiennent à la musique.
Afin d'illustrer cette richesse, nous avons choisi de faire dialoguer des œuvres de compositrices du passé et d'aujourd'hui, des témoignages très personnels de nos concitoyennes, des paroles de femmes sur leur pratique de musicienne. Au-delà des frontières temporelles et stylistiques, ces femmes sont rassemblées par le fait que leur pratique musicale dépasse celle d'un simple loisir et s'intègre pleinement à leur vie jusqu'à développer un lien intime, amical avec leur instrument, avec leurs œuvres, en en faisant des sujets pleinement vivants. Dans le cours de l'émission, nous aurons l'occasion d'entendre Julia Hay, sociologue spécialiste de la question du genre dans le spectacle vivant. Elle donnera des éclairages sur les mécanismes encore à l'œuvre conduisant à une certaine invisibilisation des femmes dans le secteur musical. Mais d'emblée, nous laissons les compositrices et les musiciennes parler d'elles-mêmes à travers leur musique et ainsi nous dévoiler une part de leur intimité.
Dans un rayon du crépuscule, s'endort la libellule, le rossignol s'est endormi sur la branche d'un chêne ami. L'herbage est plein de lucioles, le ciel d'étoiles folles y porte.
Je sais pas trop si c'est des sentiments, mais c'est des choses qui font partie de moi. Et à aucun moment, j'aurais envie de m'en séparer, quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à vendre leur instrument ou à les donner. J'ai une amie qui a donné une de ses guitares. Je dis, mais... c'est pas le fait de donner, mais c'est quelque chose que j'aimerais toujours avoir près de moi, quoi. Même si la guitare électrique, je l'ai pas sortie depuis Claire Aînée. Je crois pas. Si, j'ai dû lui en jouer une fois. Ça, c'était quand j'étais enceinte que c'était ça.
Ah, oui,
j'ai dû lui en jouer une fois, elle a fait... mais c'est pas pour autant que j'aurais envie de m'en séparer. Elle est là et... Bah, ça reste un objet, mais un objet particulier. C'est pas comme une... c'est pas un bouquin, c'est pas un habit. C'est... Ouais, c'est quelque chose d'assez particulier, l'instrument. Parce que c'est un champ de possible, quoi. On s'ouvre beaucoup d'horizons en ouvrant une housse. On se dit, ah ouais, avec ça je pourrais jouer tout ce que je veux. Et puis c'est vrai que ça reste c'est pas un hasard si j'ai voulu vous raconter ça par chronologie, c'est que c'est vraiment une partie de ce qui m'a construit, de ma vie, quoi. Et que, bah, voilà, c'est un peu une trace ou un témoin, quoi. Un témoin de ce que j'étais quand j'avais 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Moi, ouais, je pense que c'est pas mal comme terme. Ça me fait me rappeler ce que j'ai vécu aussi, quoi. Sans pour autant vivre dans le passé.
Julia Hay, vous êtes docteur en sociologie et spécialiste de la place des femmes dans le secteur musical. De nombreux rapports établis par le ministère chargé de l'égalité, par des institutions telles que la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, par diverses associations, montrent que les femmes sont encore moins représentées dans le spectacle vivant, que ce soit en tant qu'interprète, soliste, chef d'orchestre ou compositrice. Il semble donc que les stéréotypes ont la vie dure. Nous avons rencontré Margot et Laure qui nous ont posé leurs questions à ce sujet, et auquel vous pourrez peut-être apporter des éléments de réponse.
Je fais de la musique au conservatoire et j'aurais bien aimé faire de la trompette, mais il n'y a que des garçons. Alors j'ai choisi autre chose, du coup je fais de la harpe. C'est joli, mais j'aime quand même vraiment la trompette. Pourquoi il y a des instruments plus pour les filles et d'autres plus pour les garçons ?
Tout d'abord, pour répondre à ta question, Margot, il serait intéressant de partager quelques chiffres. En 2009, les femmes représentent un tiers des instrumentistes des 29 orchestres symphoniques permanents français. Mais leur présence varie fortement selon les instruments. Elles constituent 43,3% des cordes, 21,8% des bois, mais seulement 7,3% des percussions et 4,6% des cuivres. À l'orchestre, comme dans tous les mondes professionnels, les musiciennes se heurtent à un plafond de verre. Elles sont plus souvent tutistes, leurs voix se fondent dans l'ensemble, que solistes et n'accèdent qu'exceptionnellement au sommet de la pyramide orchestrale. On constate donc une répartition très inégale des instrumentistes femmes en fonction du pupitre. De plus, si l'on prend l'exemple du Conservatoire de Paris, les femmes ont certes pu suivre un enseignement musical dès sa création, en 1795, mais les instruments qu'elles pouvaient apprendre étaient limités. En effet, il faudra attendre 1970 pour que les classes de bois accueillent des femmes, et les années 80-90 pour les cuivres. Cette difficulté à trouver sa place dans divers pupitres lorsque l'on est une femme peut être liée à l'association de divers clichés sur le comportement qu'elles sont censées avoir et la manière dont certains instruments doivent être joués. Par exemple, souffler dans un instrument à vent a longtemps été considéré comme inconvenant pour les femmes. Il déforme le visage et produit des humeurs, la salive accumulée ou sueur liée à l'effort. Cet imaginaire s'est transformé au cours du XXe siècle. Certains instruments se sont féminisés, tels la flûte, premier instrument pour lequel les femmes ont été récompensées au Conservatoire national de musique de Paris. Le jeu a été perçu comme gracieux et la posture, sur le côté et la bouche juste posée sur l'embouchure, plus acceptable que celui du clarinettiste qui embouche son instrument à pleines lèvres ou du trompettiste qui écrase les siennes sur l'embouchure. Tous ces éléments nous permettent de mieux comprendre pourquoi, aujourd'hui encore, certains instruments sont stéréotypés pour les hommes et d'autres pour les femmes.
Avec mes parents, on regarde le concert du Nouvel An chaque année et j'ai remarqué qu'à chaque fois, le chef d'orchestre est un homme. Est-ce que ça existe, les chefs d'orchestre femmes ?
Il faut savoir, Laure, qu'en France et dans le monde, les chefs d'orchestre féminins sont rarissimes. Seulement 4% dans l'Hexagone, selon les chiffres de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, contre 6% dans le monde. Et cette tendance qui devrait continuer à progresser est toute récente. Quant à la place de la femme dans l'orchestre, c'est certes mieux, mais seulement depuis une dizaine d'années. Parce qu'après tout, il n'est question que de ça. Si les femmes sont minoritaires dans les orchestres, c'est aussi parce que pendant longtemps, les hommes qui étaient majoritaires n'en voulaient pas. Ce qu'on voit à la télé n'est que le reflet d'un stéréotype vieux comme le monde, qui dit que les femmes ne sont pas aussi fortes que les hommes, qu'elles ont moins de valeur, même s'il y a des exceptions, comme Nadia Boulanger, qui avait une certaine renommée en son temps. C'est évidemment faux. Et des personnalités fortes dans le monde musical comme Laurent Bayle, président de la Philharmonie de Paris, et Claire Gibault, à la tête du Paris Mozart Orchestra, sont prêts à changer les mentalités. Ainsi, avec leur nouveau concours nommé La Maestra, la Philharmonie de Paris et le Paris Mozart Orchestra ont pour objectif de faire connaître des femmes chefs d'orchestre et d'accompagner les trois meilleures candidates vers les plus hauts sommets. Cette année, il y avait 220 candidates de 51 nationalités différentes. De plus, dans la musique et plus particulièrement dans la direction d'orchestre, l'expérience est très recherchée. Laurent Bayle explique que les chefs d'orchestre de 80 ans sont les plus recherchés. Et la grande majorité des chefs d'orchestre âgés sont des hommes.
Je m'inquiète. Prof, pour un cœur de femme, quand je fais des choix de texte, je fais vraiment des choix de texte, d'accord ? Et des fois, je modifie des textes. Et c'est un des trucs qui me gave dans les musiques trad françaises, en langue française, c'est qu'il y a tellement de gens qui font ces répertoires sans réfléchir à ce qu'ils chantent. Moi, je peux plus entendre ces trucs réac. Waouh, c'est horrible. Donc, on a de la chance en répertoire chanté irlandais, c'est qu'on a beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes qui soient antimilitaristes, antipatriarcales, enfin, comment dire, les Irlandais, ils ont été pendant 900 ans dominés, ah bah ils en ont mis un paquet dans leurs chansons, si tu veux, de la rébellion.
Pour Journal intime. Juin 1841, Clara. Mon piano est encore une fois relégué au second plan, comme il arrive chaque fois que Robert compose. De toute une journée, il ne se présente plus la plus petite heure pour moi, pourvu que je ne sois pas trop en régression. Nous avons aussi interrompu le déchiffrage des partitions, pour peu de temps, j'espère. La composition va tout aussi mal. Par moments, je cognerais volontiers contre les murs ma tête stupide. J'ai beaucoup composé cette semaine et mis en particulier en musique 4 poèmes de Rückert à l'intention de mon cher Robert. Qu'il s'en montre un tant soit peu satisfait et mon vœu sera pleinement comblé.
Thank you.
Madame Betsy Jolas, nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette émission. Votre génération a vu quelques femmes compositrices se démarquer dans un paysage très masculin. Pouvez-vous nous dire ce qui a été déterminant dans votre formation ?
Je pense qu'une grande partie de l'enseignement qu'un compositeur doit recevoir, c'est de se cultiver, de savoir ce qu'il y a déjà dans lequel il peut puiser. Souvent, ils sont là en train de chercher des solutions alors qu'elles sont là. Mais il suffit de savoir non seulement les trouver, mais s'en servir. Il faut apprendre. Ça peut être la manière de passer d'une mesure à une autre ou d'un motif à un autre. Ça peut être très peu de choses. Et très souvent, je leur dis, mais vous allez trouver la solution dans Chopin ou dans Mozart ou dans Berlioz, à tel endroit. Et ils sont un peu étonnés que je ne leur donne pas tout de suite des noms de compositeurs contemporains. Mais j'en donne aussi. Ça arrive. C'est la question de la culture musicale d'un compositeur est essentielle pour moi, essentielle.
Dans votre cheminement pour devenir compositrice, vous avez fait des rencontres importantes. Je crois savoir que celle avec Pierre Boulez vous a particulièrement marqué. Est-ce que vous pourriez nous raconter cet épisode ?
La première fois que je lui ai montré, je mourais de timidité. J'étais extrêmement timide à l'époque. Et je n'étais pas sûr de moi. La première fois que je lui ai montré mon œuvre, je crois qu'il n'a rien aimé, vraiment. Mais il a été adorable. Il m'a consacré 3 heures. Il a tout regardé et surtout, il ne m'a pas considéré comme une femme compositeur. À l'époque, c'était très important. Ça m'a donné, parce que les femmes compositeurs, je n'en voyais aucune qui pouvait me servir de modèle. Et ça a été un de mes problèmes à l'époque. Et il m'a traité comme un compositeur. Un compositeur, d'ailleurs. On ne disait pas compositrice à l'époque. Et ça a été très important. Il m'a traité en professionnel.
Chez mon père, même quand on ouvrait la porte d'entrée, on était face au piano, quoi. Et en fait, j'adorais le mettre au milieu du salon parce que tous les vendredis soirs, j'invitais à peu près tout le lycée, presque. Enfin, on était 20, 30, des gens différents. par le bouche à oreille, des choses comme ça. Je faisais venir beaucoup de monde. Et l'idée, c'était de faire venir chaque vendredi soir des musiciens et qu'il y ait un moment dans la soirée dédié vraiment à la musique. Donc le piano était au milieu pour que chacun puisse jouer quand il veut, comme il voulait. J'avais même des amis qui venaient quand j'étais pas là pour jouer dans le salon. Donc je voulais qu'il y ait un accès pour tout le monde.
Nous arrivons au terme de cette émission. Nous avons pu voir à travers les témoignages de nos concitoyennes actuelles, à travers la musique de celles qui les ont précédées, combien la musique permet à ces femmes d'exprimer leurs différences, leur manière d'exister et d'appréhender le monde.
La place des femmes dans la musique est en mouvement. Suivons-les des yeux car elles ouvrent d'autres perspectives.
Étrange rêverie quand je te vois. Oh.